man and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the Venice Convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. My cowboy's doing TV land. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the mobs, a fire at Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Mobs was good, but he had sense. Engels lent him the necessary bench. Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse Nixon. Both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin. Who's more famous is a billion millions? The Roots Flash. Vacuum cleaner sucks up budgie.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Il est 13h à Paris et 11h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Fanny Baye.
Au moins 13 morts et des dizaines de blessés. Le bilan s'alourdit en Russie après une attaque de drones ukrainiennes dans la région du Tatarstan, zone située à plus de 1600 km de la frontière ukrainienne. Preuve que les moyens militaires de Kiev sont conséquents, vous l'entendrez. Nous serons aussi au Liban dans cette édition où Beyrouth menace de boycotter le prochain round de négociations avec Israël, prévu en septembre à Rome sous l'égide des États-Unis. En cause, les nombreuses violations du cessez-le-feu par l'État hébreu. C'était il y a 30 ans l'assassinat du rappeur américain Tupac Shakur. 30 ans plus tard, son meurtre n'est toujours pas élucidé. Mais le procès de Duane Davis, ancien membre de gang qui s'ouvre aujourd'hui, pourrait mettre la lumière sur le mystère. Enfin, comment éviter la sexualisation des athlètes lors des compétitions? La question s'est posée au sein de l'Union européenne de radio-télévision qui a encadré la diffusion des épreuves avant le début des championnats d'Europe d'athlétisme. On en parle en détail à la fin de ce journal. À la une, un bilan qui s'alourdit en Russie après une attaque de drones ukrainiennes. Au moins 13 morts et des dizaines de blessés à la suite d'une frappe ayant visé une ville industrielle du Tatarstan à 1600 km de la frontière ukrainienne, ville qui abrite notamment des raffineries de pétrole. Kiev vise désormais presque quotidiennement Moscou en faisant des victimes et des dégâts et vise aussi toujours plus loin dans le territoire russe, analyse Ulrich Bounat, chercheur associé à Eurocreative. Écoutez.
Les Ukrainiens ont désormais une capacité à frapper à peu près où ils veulent, à l'ouest de l'Oural, voire même des fois au-delà. Donc ils ont cette capacité désormais à envoyer des drones avec des charges explosives relativement importantes, entre 50 et 100 kilos, qui sont capables de voler 1500, 2000 kilomètres sans aucune difficulté. Ils ont aussi surtout cette capacité à en envoyer des centaines toutes les nuits. Et de leur côté, les Russes ont trois problèmes. Le premier, c'est que avec l'immensité du territoire, la défense aérienne ne peut pas être partout. Le deuxième, c'est que avec le volume de drones qui sont envoyés, quand bien même il y a des défenses antiaériennes, elles sont submergées par le nombre. Donc ils peuvent en abattre une partie, mais il y en a quand même une partie qui passe. Et le dernier point, c'est que cette menace étant relativement récente, d'un point de vue massif pour les Russes, ils n'ont pas encore développé de drones intercepteurs, contrairement aux Ukrainiens, ce qui fait que les systèmes antiaériens qu'ils ont actuellement, les Russes, sont pas non plus complètement adaptés à cette menace.
Ulrich Bounat, interrogé par Muriel Paradon. Mais l'Ukraine a elle aussi essuyé des frappes russes aujourd'hui, au moins 5 morts dans la région de Kharkiv et au moins 4 blessés, dont un enfant à Zaporijja dans le sud du pays. L'Iran ne se sent pas visé par le pacte de défense Arabie Saoudite, Pakistan, Turquie. Voilà ce qu'affirme aujourd'hui la diplomatie iranienne qui estime que cet accord montre, je cite, un changement de perception vis-à-vis des États-Unis. Vendredi dernier, Riyad, Islamabad et Ankara ont signé un pacte stipulant que toute attaque contre l'un des trois pays serait considérée comme une attaque contre tous. Texte adopté dans un contexte de guerre dans la région et alors que les pays du Golfe ont été régulièrement la cible de Téhéran en représailles à l'offensive américano-israélienne lancée en février dernier. Nouvelle divergence justement entre Téhéran et Washington sur le détroit d'Ormuz. Des incertitudes dans les négociations pour ouvrir le passage maritime qui provoque une hausse des cours du pétrole aujourd'hui. Le prix du baril de Brent prenait ce matin environ 1,05%. La veille, l'Iran déclarait que le détroit resterait fermé tant que les États-Unis n'accepteraient pas toutes ces conditions. L'actualité au Proche-Orient, ce sont aussi les bombardements israéliens ce week-end sur plusieurs localités du sud Liban. Et face aux violations répétées du cessez-le-feu par l'armée israélienne, des médias libanais indiquent ce lundi que Beyrouth menace de ne pas participer au prochain round de négociations avec l'État hébreu. Discussion prévue en septembre à Rome sous l'égide de Washington. La correspondance à Beyrouth de Paul Khalifi.
En menaçant de ne pas participer au prochain cycle de négociations, le Liban adresse un message aux États-Unis pour qu'ils exercent des pressions sur Israël. Intransigeant, l'État hébreu refuse la proposition libanaise d'élargir les zones pilotes qui devraient être placées sous le contrôle de l'armée libanaise à de nouvelles localités occupées dans le sud Liban. Dans ce contexte, les négociateurs libanais proposent des villes de Khiam et Bint Ishbeil, situées respectivement à 5 et 3 kilomètres de la frontière. L'attaque contre un véhicule militaire libanais près de Khiam dimanche n'est pas anodine. Les Israéliens veulent ainsi marquer leur rejet de la demande de Beyrouth. Les négociateurs israéliens ont également rejeté la demande de Beyrouth de libérer les détenus libanais. Dans ce cadre, Israël veut faire une distinction entre les combattants du Hezbollah et les prisonniers civils. Face à l'intransigeance israélienne, le patriarche maronite Bchar Arraï, principal soutien du président Joseph Aoun, a souhaité que le Liban reste ferme dans ses revendications. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Les États-Unis vont mener des exercices conjoints avec la Corée du Sud. En cause, les nouvelles menaces nord-coréennes. Déclaration aujourd'hui d'un porte-parole de ces exercices. Des manœuvres qui dureront cette année 11 jours et commenceront la semaine prochaine. On reste aux États-Unis où s'ouvre aujourd'hui le procès de Duane Davis, dit Kif D. L'ancien membre de gang est soupçonné d'avoir organisé et participé à l'assassinat de Tupac Shakur le 13 septembre 1994. Le rappeur américain âgé de 25 ans mourait après avoir été touché par des tirs quelques jours plus tôt en pleine rue à Las Vegas. 30 ans plus tard, le procès va être scruté. Gwendal Lavina.
Dans les années 90, Tupac Shakur est l'un des rappeurs les plus connus de la planète. Son meurtre, alors qu'il circulait en voiture à Las Vegas, est donc particulièrement scruté. Mais pendant des années, l'enquête piétine. Les quatre occupants de la Cadillac blanche qui transportaient le tireur restent introuvables. Le mystère a toutefois commencé à se dissiper ces dernières années puisque Kif D, ancien trafiquant de drogue et ex-chef de gang, a affirmé à plusieurs reprises publiquement être impliqué dans l'assassinat du rappeur sur fond de rivalité. Arrêté en 2023, l'homme de 63 ans plaide non coupable aux accusations d'avoir fourni l'arme qui a servi à tuer Tupac. Les trois autres occupants de la voiture, identifiés depuis, sont eux décédés. Dans ses mémoires publiées en 2019, Kif D écrivait avoir participé à l'expédition meurtrière avec d'autres membres de son gang de Compton, un quartier de Los Angeles. Désormais, Kif D affirme qu'il a menti pour vendre son livre et se mettre en avant. Le procès prévu pour durer 4 semaines permettra peut-être de conclure cet épisode de la culture urbaine américaine. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Dans le reste de l'actualité, vague de chaleur à répétition, sécheresse généralisée, incendie dévastateur. L'Europe occidentale a connu son début d'été le plus chaud jamais enregistré. Record pour la période de juin-juillet. Le directeur de Copernicus, Observatoire européen du changement climatique, s'alarme aujourd'hui. Nous n'avons pas connu un tel climat de notre vivant et peut-être même pas depuis l'avènement de notre civilisation, a alerté Carlo Buentempo. À l'échelle mondiale, les chaleurs records de juillet ont concerné 900 millions de personnes. L'Institut a également indiqué que les océans de la planète avaient atteint en juillet des niveaux de chaleur inédits. Des fortes chaleurs qui favorisent l'apparition de feux de forêt. Un incendie ravage justement la province canadienne de Colombie-Britannique depuis vendredi. Une octogénaire est morte en tentant de fuir les flammes selon la gendarmerie. L'état d'urgence a été décrété dans la province où 13 000 hectares sont déjà partis en fumée. Plus de 20 000 personnes évacuées. Cette année, la saison des feux est l'une des plus destructrices jamais enregistrées au Canada, pays qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Du sport, à présent sur RFI, top départ des championnats d'Europe d'athlétisme aujourd'hui à Birmingham en Angleterre, une compétition qui sera suivie notamment pour la lutte sur 5000 mètres entre le Norvégien triple champion en titre Jacob Ingebrigtsen et le Français Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000. Également attendu la finale du 100 mètres d'abandon, on attend les Britanniques Dinah Asher-Smith et Amy Hunt, une édition 2026 des championnats d'Europe marquante aussi pour sa lutte contre la sexualisation des athlètes. L'Union européenne de radio-télévision, qui encadre la diffusion des épreuves, a publié une série de recommandations. Antoine Grenier.
Changer le regard, ça commence par les prises de vue. Afin de lutter contre les plans suggestifs des athlètes à la télévision, plusieurs figures de l'athlète féminin ont prêté leur concours à l'UER. En amont de ces championnats d'Europe de Birmingham, des références sportives comme la perchiste britannique Holly Bradshaw, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, ont ainsi été sollicitées pour conseiller les diffuseurs. Résultat, un guide, de recommandations précises et des schémas de prise de vue considérés comme ne servant aucun objectif technique ni narratif. Les plans prolongés sur des corps, les prises de vue en contre-plongée qui dévoilent des angles intimes font partie des problèmes constatés dans la couverture médiatique des compétitions sportives féminines aujourd'hui, a écrit Glenn Killen, le directeur exécutif de l'UER. Une initiative bien accueillie par les athlètes, notamment par la sprinteuse britannique Amy Hunt, la vice-championne du monde du 200 mètres, médaillée d'argent au JO de Paris 2024 sur le 4x100, a ainsi salué une évolution très positive.
Les explications d'Antoine Grenier. Les premières médailles des championnats d'Europe seront décernées dès ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci d'être à l'écoute de RFI. Le prochain point sur l'actualité dans une 50aine de minutes à suivre sur la Radio du Monde. Grand reportage.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI. Grand reportage, Jacques Alix.
La flambée de violence entre Cambodge et Thaïlande l'année dernière a laissé de profondes cicatrices à la frontière. Maisons détruites, terres devenues dangereuses, habitants encore déplacés. Malgré le cessez-le-feu du 27 décembre dernier, la région peine à retrouver une vie normale. Au-delà de l'affrontement militaire, le différend frontalier continue d'alimenter les tensions entre Phnom Penh et Bangkok. Fin février, plus de 60 000 personnes n'avaient toujours pas pu regagner leur logement, selon les autorités cambodgiennes, qui accusent par ailleurs l'armée thaïlandaise d'occuper certaines zones frontalières. Cambodge, Thaïlande, après les combats, vivre dans l'ombre de la guerre, un grand reportage de Jean-Pierre Page.
La démarche fragile, ce père de famille s'avance dans un épais bosquet, tenant d'une main sa jeune fillette et fixant le sol du regard. Sam Bum est précautionneux. Les autorités cambodgiennes l'ont prévenu, revenir dans les décombres de son habitation n'est pas sans risque. À ses pieds, les restes non explosés d'un projectile de mortier, tandis que se dresse devant lui la charpente calcinée de son logis.
Quand les Thaïlandais ont tiré, les gens ont couru pour fuir. Ils ont laissé leurs affaires là, tu vois ? Il ne restait que quelques objets comme des vêtements et des boissons, des choses qui étaient à vendre. Les gens ont dû courir pour s'enfuir.
En décembre dernier, son habitation a été éventrée, la toiture déchiquetée par un projectile militaire thaïlandais. Au milieu du salon repose encore un morceau de l'artillerie utilisée lors des affrontements entre les deux pays.
Vous écoutez le mix des cultures
sur HDR.
HDR 99.1.
HDR.
Vous écoutez HDR 99.1.
HDR. HDR, le mix de toutes les cultures.
HDR.
Change to the wire, round and round.
HDR, le mix,
le mix,
le mix de toutes les cultures.
Thanks and pray for all his goodness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful and ever right. Let us give Jah thanks and pray for all his goodness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful ever right. Be active and responsive. Don't you be clumsy. Don't you hurt the children of the earth and let no one see. Youths of today, don't you go astray. Open, pray and let the blessing come amongst me. Remember what Jah has done for us. Create the heaven and the earth. He shine the sun for us. He watch over our daughters and son for us. He's for all, not just some of us. Let us give Jah thanks and praise for all his goodness all those years. Don't be ungrateful, just be faithful ever. Children, give Jah thanks and praise for all his love and kindness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful and ever. Love to the world, everyone say. We've been coming a long way. Mount Zion, I love surround way. They get to going the wrong way. Hail King Selassie, I, of course. Rastafari is the Lord of hosts. Israel King is Israel, God of course. Love the King of Kings and Lord of Lords, of course. Jah thanks and praise for all his goodness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful for I. Jah thanks and praise for all his goodness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful in the last year. Oh, from morning till noon, give thanks and praise before you doom. Is coming soon. In the fire the wicked consume. From the hills and to the valleys, from the stream, the fountains and the tributaries, all living things, they're on this territory. Damn, hey, King Selassie, make it hurry. Let us give Jah thanks and praise for all his goodness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful in Selassie. People, give Jah thanks and praise for all his protection all these years. Don't be ungrateful, just be faithful, hey, hey, for I.
Sauver la planète.
Simplifier, accélérer, ne plus bloquer. Voilà le credo affiché par le gouvernement avec la parution au journal officiel du 22 avril 2026 du décret 2026-32. Son objectif officiel est d'alléger les procédures contentieuses en matière environnementale pour les projets dits stratégiques et de réduire les délais de justice afin de ne pas freiner la transition écologique et la souveraineté économique. Bonne idée pour certains, mais pour d'autres, pas tout à fait. Pour en parler, cette semaine, je vous propose de rencontrer la présidente de FNE Occitanie, France Nature Environnement, et il s'agit de Cécile Argentin. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle ce qu'est FNE, France Nature Environnement ?
Alors, France Nature Environnement est une association d'intérêt général au niveau national avec des déclinaisons dans les régions. Et donc, nous sommes FNE Occitanie Midi-Pyrénées à l'échelle de 8 départements. Donc, l'ouest de l'Occitanie, et c'est le plus grand réseau d'associations au niveau national et qui est impliquée dans tous les départements et les commissions départementales.
Le FNE représente en général les associations de protection de la nature et de l'environnement dans tous les espaces de concertation, avant des projets pour gérer l'agriculture au niveau de la préfecture, pour gérer la chasse, pour gérer tout un nombre de dossiers. Vous êtes très fort sur le terrain et c'est en général vous ou des associations que vous accompagnez qui mettent en justice des projets qui seraient écocides. Alors pourquoi la Fédération France Nature Environnement, au niveau national, ça dépasse finalement le régional, est impactée au premier chef par ce décret qui est censé permettre de faire avancer plus vite les projets dans la transition écologique?
Alors nous sommes un mouvement qui marche avec la concertation, qui répond à toutes les enquêtes publiques, aux consultations publiques, qui sommes présents dans les commissions. Et donc il nous semble normal, nous, que la population soit à la fois informée et qu'on puisse aussi contribuer en tant qu'APNE, Association de Protection Naturelle et Environnement, à des améliorations des projets pour qu'ils soient moins destructeurs, moins écocides. Et ce décret-là prive les associations, dont FNE, qui a un service juridique de juristes important, d'un certain nombre de possibilités de recours, mais pas seulement de recours, également tout simplement de pouvoir porter un jugement sur un arrêté préfectoral qui va ouvrir sur un projet.
Donc c'est c'est-à-dire que vous n'avez plus accès au dossier ?
Alors, on a accès au dossier sur les enquêtes publiques ou les consultations publiques. Simplement, de ces consultations publiques sortent des arrêtés préfectoraux pour lesquels, aujourd'hui, il ne sera pas possible pour un certain nombre de projets de faire ne serait-ce que des recours gracieux, c'est-à-dire qu'on demande des modifications d'un arrêté d'exploitation parce qu'il ne nous semble pas suffisamment conservateur par rapport au milieu ou par rapport aux impacts éventuels. Donc ces recours-là sont, ce recours gracieux est devenu impossible. Et par ailleurs, nous sommes privés, mais tous les citoyens sont à la même enseigne, des possibilités de recours en première instance dans tous les tribunaux administratifs. Donc pour résumer, tous les projets qui concernent les énergies renouvelables.
En fait, en gros, il s'agit d'un saut dans une espèce de flou juridique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir vraiment comment agir, comment défendre les citoyens et la nature.
En fait, le seul objectif de ce décret, en fait, c'est d'appauvrir les associations en les obligeant à recourir non pas à leurs services juridiques en interne, mais à des avocats assez coûteux qui sont habilités à intervenir dans les cours administratives. Donc, en fait, c'est un moyen qui a déjà été mis en œuvre pour l'éolien il y a une dizaine d'années, de diminuer le plus possible les recours au tribunal administratif et donc les moyens de contestation, d'amélioration des dossiers. Donc, c'est le seul et unique objectif. Il y a un grand risque à ça, c'est qu'on sait très bien qu'en diminuant les concertations, en diminuant les possibilités d'aménager, d'apporter...